l'Express du Grand Paris. Pour aller plus vite, pour aller plus loin.
Bienvenue dans Grand Paris Express. On parle à nouveau de ce futur réseau de 200 km de métro, 68 gares, un impact urbain. C'est le plus grand projet d'aménagement urbain en Europe et c'est un sujet politique dont on parle dans un contexte extrêmement politique. Nous sommes avec le questeur du Sénat. Merci de nous accueillir, monsieur Cavos-Caneas.
Bonjour, bienvenue.
Effectivement, un petit mot de cette conjoncture. Hein, le nouveau gouvernement de la première ministre Elisabeth Borne a été révélé récemment. Un gouvernement où les problématiques des transports, de la mobilité, de la transformation énergétique sont directement associées au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Vous-même, vous êtes un expert de la mobilité. Vous êtes convaincu de cette cohérence entre la transition écologique et le transport?
Ce qui est une chose qui est certaine, c'est que le secteur des transports est l'un des plus émetteurs de CO2 et donc il est exposé à cette obligation que nous avons tous d'assurer la transition écologique. Évidemment, il y a des défis nombreux là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que transporter, c'est d'abord permettre à nos concitoyens, nos compatriotes d'aller d'un point A à un point B, et que dans beaucoup d'endroits du territoire, ça reste un défi. Et donc il faut quand même conjuguer les deux choses, c'est-à-dire bien sûr penser à l'avenir, bien sûr faire notre devoir en matière de transition écologique, mais ne pas oublier qu'il y a des personnes qui sont justement les oubliés des transports, qui peuvent être en banlieue comme en zone rurale, et qui ont des difficultés, et qu'ensuite il y a tout un secteur d'emploi. Donc je pense qu'il faut d'abord assurer la mobilité, et la mobilité doit se concevoir comme étant une mobilité décarbonée. La vraie question, c'est quelle est la feuille de route, quel est le délai et quels sont les moyens pour y parvenir. Et là-dessus, on n'est pas au bout de nos peines.
Monsieur Vincent Capot-Canellas, les sujets de mobilité, est-ce que ça reste clivant ou il y a quand même un besoin de transport? On se demande à l'heure du télétravail, est-ce que ça fait bouger les lignes? Est-ce que sur les parties, d'un parti à l'autre, vous qui êtes centriste, vous voyez des grandes différences sur ces sujets-là?
Je crois d'abord que le sujet de mobilité n'est pas abordé comme il devrait l'être, parce que lorsque vous allez, par exemple, dans le Cantal, vous vous rendez compte que pour les entreprises, pour l'emploi, la liaison avec les capitales régionales et avec Paris, c'est un sujet majeur de développement. C'est le sujet qui permet ou pas à une entreprise de décider de s'implanter. Lorsque vous allez en Bretagne, vous vous rendez compte que la liaison avec Paris, dans certains coins de la Bretagne, n'est pas si évidente que ça. Et je pourrais multiplier les exemples. Donc il y a un besoin de transport, il y a un besoin de connectivité. Et dans un monde ouvert comme le nôtre, la France aussi a besoin de garder cette capacité. Dans le secteur aérien, par exemple, la France a été pionnière. Elle le reste, elle doit rester à la pointe. Ensuite, on a un sujet, c'est que tout le système de transport est quand même orienté vers Paris. Et donc, il y a un sujet de transversal. Donc voilà, ce besoin de mobilité, à mon sens, il est majeur. Et on voit bien aujourd'hui, au moment où les énergies fossiles, comme on dit, sont comptées et où le prix des carburants augmente, qu'il y a aujourd'hui une crise de la mobilité et une difficulté. Ça veut dire que le transport ne se conçoit pas tout seul. Le transport, il se conçoit avec une logique d'aménagement du territoire et avec une logique d'étalement urbain qu'il nous faut sans doute arriver à réguler. Parce que bien souvent, on le voit dans les grandes métropoles, effectivement, ceux qui s'implantent veulent plus grand, avec un espace vert aujourd'hui, et différent. Il faut penser au transport différemment. Alors, vous y faites allusion, avec le Covid, on a vécu des changements de mode de travail, et on mesure tous qu'on peut très bien travailler en visio, qu'on peut faire du travail à distance, et que le télétravail a tendance à se généraliser un peu. Voilà, quelles sont les conséquences en matière de transport? Elles existent, on en a vu des éléments sur les transports publics, avec moins de recettes notamment, mais ça veut dire qu'il y a un travail à faire aussi, peut-être pour réguler les horaires dans les grandes villes, pour permettre qu'on passe mieux la pointe et qu'on donne une priorité au transport en commun.
Alors, c'est vrai que ce projet du Grand Paris Express vise à faire respirer Paris et sa banlieue. On a vu sous la pandémie beaucoup de personnes se mettre au vert. Elles ont du mal à revenir dans les grandes métropoles. Vous croyez que c'est la tendance ? Vous avez évoqué la notion d'aménagement du territoire. On est à un moment clé où, à nouveau, l'État, les pouvoirs publics et les privés peuvent se mobiliser pour densifier ce réseau, peut-être un petit peu au détriment de Paris, qui a été longtemps favorisé ces dernières années.
Oui, aujourd'hui, il y a besoin quand même d'améliorer l'offre en Île-de-France. C'était la grande ambition du Grand Paris Express. Et on voit bien que sur beaucoup de lignes, je pense à la ligne B que je connais bien, puisque je suis à maire honoraire du Bourget et j'y habite. Quand je viens ici, j'ai la chance, moi, de faire le Bourget-Luxembourg en RB, mais ça reste une galère. Et la dernière fois que je l'ai pris, effectivement, le train n'a pas démarré. Bon. Voilà, et c'est un élément du quotidien pour nos concitoyens. C'est un problème en termes d'accessibilité à l'emploi aussi, bien évidemment, mais le A est en situation aussi difficile. Et il y a quand même un sous-investissement en Île-de-France dans le transport public, un sujet de rénovation, un sujet de qualité de service qu'il faudra essayer d'améliorer parce que pour les franciliens, c'est un vrai élément de qualité de vie. Ensuite, l'investissement en transport public est nécessaire parce que on voit bien en termes de qualité de l'air qu'il y a des efforts à faire. Il y a la ZFE qui est mise en place par la métropole du Grand Paris. Je crois que c'est un acte courageux. Il faut saluer les maires qui ont osé mettre en place cette zone-là. Alors, ça va appeler aussi un changement des habitudes, un financement des véhicules électriques. Mais on a un vrai besoin. Et je pense que le Grand Paris Express répond à des besoins de banlieue à banlieue, notamment, et de desservir des zones, je pense notamment au secteur de Clichy-sous-Bois, par exemple, dans mon département Seine-Saint-Denis, qui était jusque-là très mal desservie encore. Mais il faudra demain avoir à l'esprit que si on veut donner la priorité au transport public, il faut aussi que chacun y retrouve de la qualité et qu'on n'est pas au bout de nos peines là-dessus.
Alors, vous êtes effectivement maire honoraire au Bourget. Ça fait des années qu'on attend, et notamment au moment du salon du Bourget, tous les 4 ans, que la desserte soit améliorée. Le Grand Paris Express, il va métamorphoser le Bourget. Hein, sauf erreur de ma part, il va y avoir l'ouverture de deux nouvelles gares en 2024, au carrefour des lignes 16 et 17. C'est très attendu. Voilà. Est-ce qu'on en parle encore au Bourget? Parce que ce sont des chantiers qui sont longs, long terme, et du coup, est-ce qu'il n'y a pas trop de frustration qui s'accumule ?
Alors, nous sommes dans la phase qui est encore un peu la phase ingrate, parce que c'est la phase des travaux, c'est la phase des nuisances, il faut bien le dire, mais on commence à voir le bout du tunnel, si je puis dire, et en l'occurrence, c'est tout à fait réaliste que les tunnels sont en train de se creuser. Ce Grand Paris Express, moi j'ai commencé à en discuter avec le gouvernement sous Nicolas Sarkozy, donc il a fallu 3 présidents de la République. Et encore, c'est le deuxième mandat de M. Macron qui verra la concrétisation du Grand Paris Express. 3 présidents de la République, j'ose dire presque 4, en tout cas 4 mandats, pour qu'on arrive à concrétiser un projet qui était une très belle ambition. C'est une ambition aussi d'aménagement du territoire et une ambition de rééquilibrage en Île-de-France et de permettre à des populations qui jusque-là avaient des grandes difficultés de mobilité de trouver une capacité à se déplacer en transport public de bonne manière, en tout cas dans de bonnes conditions. C'est ce qu'on souhaite. Et surtout permettre d'avoir des solutions en cas de dysfonctionnement sur une ligne. Donc ça permettra de faire plus d'intermodalité. Donc il y a tout un travail à faire de maillage autour de ça. Mais donc ça arrive. C'était un grand défi. Nous avons vécu des phases difficiles avec plusieurs fois l'obligation de rejouer la partie, si je puis dire, parce que l'arbitrage initial a parfois été contesté. Il y a eu des sujets techniques, il y a eu des sujets financiers. Je me souviens d'une grande réunion avec Édouard Philippe dans une annexe de Matignon à un moment donné un peu compliqué où on s'est dit que la gare dite du musée de l'air et de l'espace sur la ligne 17, dites le Bourget Aéroport, cette gare-là a failli à ce moment-là sauter, comme on dit vulgairement. Donc il y a eu des moments extrêmement difficiles. Et Emmanuel Macron avait rendu un arbitrage qui était favorable à ce territoire-là, pas simplement parce qu'il y a le salon du Bourget, pas simplement parce qu'il y a le musée à l'espace et le parc des expositions, mais aussi parce qu'il avait conscience qu'il fallait desservir des populations qui en avaient besoin, et puis ensuite montrer que la ligne allait continuer vers Charles de Gaulle. Et quand on a le premier aéroport d'Europe, il faut aussi lui donner les moyens d'avoir une vraie connexion ferrée.
Il y a peu des opposants à la construction d'une gare sur la ligne 17 du Grand Paris Express au cœur du triangle de Gonesse qui sont rassemblés pour relancer la mobilisation. On a du mal, hein, ce chantier ne se passe pas toujours comme prévu, on a du mal à mettre en œuvre des infrastructures en France. Parfois on voit en Chine la rapidité avec laquelle des aéroports et des réseaux ferroviaires sont construits. C'est créateur d'emplois, de revenus. Et est-ce qu'il n'y a pas une difficulté où l'acte de construire des infrastructures n'est pas jugé légitime en France ? C'est une fausse impression ?
Il y a en France une place majeure pour la concertation quand même, et puis il y a un débat démocratique, et c'était normal. Mais en vous écoutant, je pensais à une discussion que j'avais eue avec Serge Dassault à l'époque. Et Serge m'avait dit c'est bien ton plan, c'est bien d'avoir obtenu du gouvernement la ligne 16, la gare du Bourget RER, la ligne 17, la gare du Bourget Aéroport, et ça va être majeur notamment pour le développement aéroportuaire du secteur, mais effectivement il faisait la comparaison que vous venez de faire, c'est-à-dire en Chine, en 5 ans ça serait fait, et nous combien de temps va-t-il falloir ? Voilà, alors de ce point de vue-là, il n'avait pas tort, mais en même temps, nous n'avons pas les mêmes exigences, nous avons plus d'exigences juridiques, de respect de la propriété individuelle, etc. Je crois que ça nous honore. Et ce type de grand projet est soumis à des vicissitudes, il y a toujours des phases très compliquées de contestation qui s'expriment. Je crois que la ligne 17 a une vraie légitimité. Parce qu'il s'agit d'aller du Bourget jusqu'à l'aéroport de Charles de Gaulle, et qu'il y a toute une dorsale qui est finalement Paris, le Bourget, Roissy, et qui est un élément structurant du Grand Paris. Et donc ça, il fallait qu'on le gagne, on l'a obtenu. Il y avait un sujet qui percutait tout ça, qui était l'affaire du triangle de Gonesse. Depuis, le gouvernement a tranché. Les choses sont claires sur ce plan-là, donc les cartes ont été rebattues, mais il me semble que ça n'enlève rien à la légitimité du parcours de la ligne 17, je souhaite que maintenant on se donne les moyens de tirer le meilleur parti de cette ligne qui aura un petit retard, mais qui va enfin devenir une réalité.
Vous êtes expert dans le domaine de l'aérien également, puisque vous êtes président du groupe d'études de l'aviation civile. Cette coexistence, symbiose entre le ferroviaire et l'aérien, on y vient, on va le voir avec ce Grand Paris Express, avec des gares qui commutent, qui permettent des connexions faciles. Ça va changer la vie et faire de la France, de l'Île-de-France, un hub encore plus important, vous pensez ?
Nous avions un paradoxe, c'est d'avoir un aéroport de classe mondiale qui correspond au savoir-faire français, et de ne pas l'avoir desservi comme il devait l'être par le fer. Moi, je crois à l'intermodalité, et de ce point de vue-là, tant le CDG Express que le Grand Paris Express ont une légitimité. Évidemment, nous, les élus locaux, nous disons que ça ne peut aller qu'avec de pair à une amélioration du RERB, mais vous savez, on croise très régulièrement des voyageurs sur la ligne B qui viennent de l'autre bout du monde, qui sont effarés de se retrouver avec leur bagage au milieu des voyageurs à l'heure de pointe, c'est un enjeu de connectivité, c'est un enjeu de compétitivité pour la France que d'être capable d'apporter ce nœud ferroviaire. Après, c'est un élément de transition aussi pour nous toutes et nous tous, et je crois un développement raisonné des transports avec l'intermodalité, et la place du ferroviaire et l'aérien ne doivent pas être opposées.
Je vais rapprocher encore une fois le micro de vous-même. On peut pas ne pas parler de conjoncture politique, parce qu'on est quand même à la veille des législatives. Au moment où nous enregistrons cette émission, le centriste que vous êtes, quel regard porte-t-il sur cette reconfiguration des alliances? Il y a eu quand même un accélérateur avec cette présidentielle.
Je crois qu'Emmanuel Macron est en train de réaliser peut-être le projet que Valéry Giscard d'Estaing avait à son époque, c'est-à-dire un grand mouvement central, et quelque part est en train d'essayer d'atténuer les effets négatifs de la bipolarisation. Alors ça a des effets parfois inattendus, mais que la France sache rassembler tous ceux qui sont des sociodémocrates jusqu'à la droite modérée, ça me paraît une bonne politique, parce qu'en fait, on a besoin de mener le pays dans un contexte où il faut savoir accomplir des réformes et que ça passe aussi par des grands rassemblements. Alors après, est-ce que les conditions sont réunies? On n'y est pas tout à fait encore pour que chacun puisse s'y associer. Mais je pense en tout cas que le Sénat, moi je suis dans un groupe ici, Union Centriste, qui est un groupe qui est dans la majorité sénatoriale, donc qui n'est pas dans la majorité gouvernementale, mais nous regardons les textes lorsqu'ils nous sont proposés, nous les amendons, et nous sommes dans un souci de construction. Je crois que passer la présidentielle avec législative, on verra quelle est la majorité à l'Assemblée nationale, on verra si c'est une logique de coalition ou pas, mais il me semble que le pays mérite maintenant, et un certain nombre de crises qui se développent, crises dans les territoires, entre d'un côté la ruralité et des territoires de banlieue qui se sentent mis au rebut, et puis les grandes métropoles, et puis on a aussi, on voit bien un certain nombre de défis en termes régaliens, de sécurité, de maîtrise des flux migratoires, on a un sujet économique majeur, on a la dette, on a la question des retraites, voilà, donc il y a un certain nombre de défis qui sont devant nous. Je pense qu'il appartiendra au président de la République, le moment venu, quand les élections législatives seront passées, de dire au pays s'il veut aller dans des logiques de rassemblement et de coalition. En tout cas, c'est ce que j'appellerai de mes voeux.
Quelle est l'ambiance au Sénat? Je rappelle, vous êtes également questeur au Sénat, rôle extrêmement important, et donc vous captez les tendances au contact de tous ces élus. Un Sénat jusqu'ici majoritairement de droite, à l'issue de l'élection présidentielle, force est de constater que le parti traditionnel LR a pris un coup dans l'aile. Alors, quelle est la teneur? Qu'est-ce qui se ressent au Sénat en ce moment?
Le Sénat, c'est un peu le reflet de la France des territoires, et c'est aussi une logique qui n'est pas connectée à l'élection présidentielle. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale aujourd'hui est un peu la réplique de l'élection présidentielle. On verra si c'est le cas dans quelques semaines de ça, mais c'est plutôt la logique depuis le quinquennat et avec des élections législatives dans la foulée. Et le Sénat, c'est un peu une chambre qui incarne une forme de stabilité des territoires et qui permet un dialogue. Je rappelle que 70% des amendements votés au Sénat restent dans les textes. Et nous sommes dans une logique de dialogue entre les assemblées. Moi, j'aime pas l'expression de Sénat d'opposition. Je pense que le Sénat est non aligné et essaye de trouver des compromis sur les textes pour justement défendre une France aussi de la concertation, des équilibres territoriaux et de construction de majorité sur des projets. Donc ça, je pense que c'est notre rôle. Et maintenant, nous sommes dans l'attente. On a vu la formation du gouvernement. Nous sommes dans l'attente de la déclaration de politique générale que fera la Première ministre au moment venu pour nous positionner. Mais je souhaite encore une fois qu'on remplisse notre rôle pleinement, c'est-à-dire trouver des compromis avec l'Assemblée nationale.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une expression plus aiguisée, parfois même virulente, des représentants politiques? On a vu des partisans de LFI à qui on reproche certains messages parfois un peu violents. On a l'impression que le débat s'est un petit peu durci, de manière concomitante, la chute, l'érosion drastique de partis traditionnels. On a vu le PS, LR, PC perdre beaucoup de terrain lors de la présidentielle. Est-ce que le Sénat, qui jouit un petit peu de cette image, comme vous le disiez, de stabilité, de continuité, il pourrait être gagné par ces remises en cause des instances traditionnelles?
On voit bien que la vie politique s'est antagonisée et que le pays d'ailleurs est antagonisé. Donc ça, c'est une réalité. On a rarement vu une France qui paraisse aussi fracturée. Alors après, il y a une différence à faire entre le débat de surface, le débat politicien, le débat parfois, pardon, mais dans les médias, et puis la réalité de la vie de nos concitoyens dans les différents territoires et au quotidien. Donc ce qu'on essaie de faire ici, en tout cas, c'est préparer l'avenir, être à l'écoute. Et puis aussi garder à l'esprit que si on veut réformer durablement, ça ne peut se faire que dans la concertation. Alors certes, il faut avoir un projet clair, il faut le mettre au débat, il ne faut pas oublier une ambition réformatrice parce que malheureusement c'est nécessaire, la société évolue, le monde évolue, les techniques évoluent et on doit s'adapter. Mais je souhaite qu'ici on garde cette capacité quand même à s'écouter et à trouver des compromis, à travailler sur le fond des choses et pas simplement sur la surface des choses comme parfois on le voit. Donc oui, il faut parfois antagoniser parce qu'il faut faire du bruit pour être entendu, mais ça ne peut pas être le projet.
Vous avez fait allusion au travail d'Emmanuel Macron pour, au centre, rallier un maximum de personnes. Il y a également cette émergence de l'union de la gauche. Vous pensez qu'elle va faire long feu? On a vu que déjà la signature, la genèse était faite au forceps, PS, PC, LFI. Il y a entre tous ces partis des différences originelles. Vous pensez qu'on va vraiment vers... Alors, faut-il parler de bipolarisation quand on parle de grands ensembles comme ceux qu'on a évoqués?
Je pense qu'aujourd'hui, il y a une tripolitisation, pour prendre une formule un peu barbare, et que ça pose question pour ceux qui étaient, comme moi, dans une logique d'alliance entre les centristes et les républicains, parce que malheureusement, le score de Mme Pécresse a été tel que ça ne met pas cette alliance-là dans la meilleure des situations pour l'avenir. Et je pense qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a capté l'essentiel de la droite modérée et des réformistes de droite. Et donc il y a quand même un sujet qui nous interpelle de ce point de vue-là. Après, les solutions de M. Mélenchon, elles sont simplistes, elles sont anti-européennes, et je pense que sur les grands sujets, disons, républicains, régaliens, il a montré par son comportement et par ses propositions qu'il était complètement à l'ouest, si je puis dire, et sur des choses qui sont idéologiques. Donc voilà, je ne pense pas que ça puisse rassembler les Français, en tout cas je ne le souhaite pas, et ça me paraîtrait un mirage et une régression économique. N'oublions pas aussi qu'aujourd'hui, la situation économique, financière du pays est quand même assez incertaine, et que dans le monde, on a besoin de stabilité du point de vue diplomatique. La guerre en Ukraine est là, on voit bien qu'on est à la merci de développements... qui sont extrêmement difficiles à envisager, mais qui sont aussi des risques nucléaires. De ce point de vue-là, je pense qu'il y a besoin d'une coalition des gens responsables, si je puis dire.
Donc on le voit, des transformations au niveau politique, on l'a évoqué. Le Grand Paris Express, on revient au titre de cette émission, c'est également peut-être le symbole des transformations en cours dans les grandes métropoles. Vous pensez que dans ce deuxième mandat, les territoires vont continuer de gagner du terrain? Est-ce qu'on va vers un acte 2 de la décentralisation? On ne peut pas dire que le premier mandat d'Emmanuel Macron s'est beaucoup distingué en la matière, non? Qu'en pensez-vous?
Je crois qu'il y a eu deux phases. Une phase d'incompréhension, et c'est vrai que le président de la République n'ayant pas été élu local, c'était une difficulté à minima de dialogue, mais je pense que du point de vue financier et du point de vue d'un certain nombre de textes que mon ancienne collègue sénatrice Jacqueline Gourault, lorsqu'elle était au gouvernement, a porté, il y a eu quand même une attention nouvelle au territoire. Alors on n'est pas encore dans une relation totalement stabilisée, mais ayons conscience que en zone rurale, encore une fois, comme en zone de banlieue, quand on parle de la desserte de transport, quand on parle de la couverture numérique, par exemple, quand on parle du besoin d'implanter les entreprises, de l'emploi, d'irriguer les territoires, ben là, il y a un vrai défi. Il y a une coupure aujourd'hui qui s'est installée. Ça doit nous interpeller. Donc voilà, moi, je souhaite qu'il y ait une relation renouvelée de ce point de vue-là. Je voudrais aussi insister, puisque le thème de votre émission, c'est le Grand Paris aussi, sur la difficulté qui se pose en matière de logement. Aujourd'hui, en Ile-de-France, parvenir à se loger, c'est pas vrai qu'en Ile-de-France, c'est vrai même en zone rurale, malheureusement, parvenir à se loger, vu l'envolée des prix, ça devient extrêmement difficile. Donc il y a un énorme défi du point de vue du logement, me semble-t-il. Après, on va regarder comment les collectivités peuvent faire face aux échéances qui sont devant elles, avec quand même aussi cet objectif affiché de réduire de 10 milliards les dotations. Là-dessus, le Sénat sera extrêmement vigilant, bien évidemment.
Voilà, on sent un Sénat très, très vigilant. Pour finir, souvent on parle de la France à l'étranger avec son étendard du luxe, et c'est vrai qu'il a beaucoup d'atouts, mais est-ce qu'on peut penser que le Grand Paris Express, il va faire partie de cette vitrine du savoir-faire français et européen en matière de mobilité, d'urbanisme? Vous attendez à ça?
Nous avons un savoir-faire en matière de transport en commun, qui est d'ailleurs un savoir-faire en matière tant aéronautique que de transport ferré. On est compétitif dans le monde entier, on gagne des marchés là-dessus, et il est normal qu'on sache montrer que chez nous aussi, on a des grands investissements utile à nos compatriotes et utile au quotidien, porteur de développement et d'emploi pour les communes, et qui redonne un peu d'espoir et un horizon à chacun en termes de mobilité. Donc ça, ça me paraît être quelque chose de vraiment majeur. Autour de ça, ce que je souhaite, c'est qu'on réfléchisse maintenant à la façon de mener le maillage institutionnel, parce que le président de la République avait annoncé une ambition pour le Grand Paris. Dans ce premier mandat, ça n'a pas pu être le cas. Vous me direz que Nicolas Sarkozy avait déjà la même ambition, il n'avait pas pu la réaliser à l'époque. Donc ça montre que le sujet est complexe. Mais je pense qu'on a quand même un sujet d'efficacité avec trop d'administrations, trop de collectivités qui parfois se marchent un petit peu dessus. Et il faut remettre de l'efficacité, de la simplicité. J'évoquais tout à l'heure les sujets qualité de l'air, les sujets d'aménagement du territoire, comment admettre qu'il y ait un peu de densité pour éviter l'étalement urbain et comment rendre tout ça acceptable. Il y a un sujet d'équipement pour nos compatriotes. Il y a un sujet de développement culturel et sportif. Voilà, donc c'est pour ça que quand j'avais travaillé à l'époque sur le Grand Paris Express au Bourget, on a travaillé avec nos voisins de Duny aussi sur le projet olympique. On s'est associé à Paris 2024. Il y a aussi un certain nombre d'investissements qu'on a gagné à ce moment-là. Donc les transports ne sont pas une fin en soi. Les transports sont un élément de la qualité de vie et d'équipement des territoires au bénéfice des habitants. Et donc la France a une ambition là-dessus, c'est bien de la réaffirmer.
Merci beaucoup Monsieur Vincent Capo-Canellas de nous avoir reçus au Sénat à quelques jours. On est dans une période cruciale, à quelques jours des législatives. Et je rappelle, vous êtes questeur au Sénat, notamment président du groupe d'études de l'aviation civile, également maire honoraire au Bourget, pour ne citer que quelques-unes de vos attributions. Merci encore pour cet entretien.
Merci à vous.
L'Express du Grand Paris, pour aller plus vite, pour aller plus loin.